franceinter.fr.
Pierre Salamé, votre invité ce matin, est politologue, membre de l'Observatoire des radicalités politiques de la Fondation Jean Jaurès.
Bonjour Gaël Broussier.
Bonjour.
Ce dimanche, le renouvellement en Espagne, c'était Pablo Iglesias, 37 ans. En France, c'était Bernard Tapie, 72 ans. Est-ce qu'il y a un problème? Est-ce qu'il y a un petit quelque chose qui cloche?
Oui, il y a un problème. Le vent de renouveau a du mal à passer les Pyrénées, apparemment. Mais bon, ce qui se passe en Espagne est très intéressant et débordera largement les frontières de l'Espagne. C'est, je crois, en tout cas l'intention, et c'est ce que signifie en tout cas la percée de Podemos hier.
On va reparler de la France dans un instant, mais restons sur l'Espagne. Pourquoi il a réussi son pari Iglesias alors qu'il y a un mois, il était en chute dans les sondages? Qu'est-ce qui s'est passé dans les dernières semaines et pourquoi ce score est historique?
Effectivement, il y a 3 ou 4 mois, on les annonçait à 10%. Aujourd'hui, ils font plus de 20%. Ils talonnent le Parti Socialiste. On a même cru à un moment donné qu'ils allaient le doubler. Bon, ce qui est vrai, c'est qu'il y a des facteurs tout à fait différents. D'abord, il y a la situation espagnole. Il y a le fait que les deux grands partis ont participé à une modification de la Constitution qui a été rejetée par la société espagnole et qui touche à l'austérité. Il y a le fait que dans les rues des villes espagnoles, en 2011, il y a eu un grand mouvement qui était le mouvement des indignés, et que, comme le disent les théoriciens de Podemos, qui sont des chercheurs en sciences politiques d'ailleurs, ça a été un grand moment où tout le monde a un peu déballé ses problèmes, et ça a été ce qu'on appelle, au sens de Gramsci, le moment économico-corporatif. Alors ça, du jargon, mais après ça débouche sur quoi? Ça débouche sur le fait que vous avez des leaders qui se saisissent de ce grand mouvement social-là et qui l'orientent politiquement. Et on a très bien vu comment Podemos s'était déployé dans la société en avançant des idées nouvelles, une compréhension du monde très très complète, très complexe même, et puis des réformes simples au plus près des gens.
Ciudadanos, en revanche, l'autre formation issue de la société civile, déçoit.
Oui, elle déçoit, mais enfin, elle est très récente aussi, parce que si Podemos avait fait 10 ou 15% hier, il n'empêche que la forme de renouvellement, l'effort de renouvellement théorique et pratique qu'il a mené aurait été déjà en soi tout à fait remarquable. Donc Ciudadanos fait un score décevant au regard de ses attentes, au regard des sondages, c'est tout à fait vrai. Maintenant, c'est aussi le fruit d'un débat très intense qui a eu lieu sur la question de la place de la décentralisation, de l'unité espagnole.
C'est-à-dire qu'eux aussi ont leur question identitaire, qui est moins basée sur l'immigration.
Voilà, qui n'est pas moins basée sur l'immigration, mais Ciudadanos et son leader Rivera étaient beaucoup plus durs sur ces questions-là, beaucoup plus enclins à pencher vers un nationalisme centralisateur, ce qui apparemment n'a pas tout à fait plu. On voit très bien la percée de Podemos sur un discours parfois un peu ambigu de la part d'Iglesias, mais enfin qui a très très bien marché au Pays Basque, en Catalogne, en alliance. À chaque fois, ils sont en alliance et ils font des percées tout à fait remarquables en dépassant les 25% parfois.
Oui, c'est vrai qu'il y a ce vent de fraîcheur, il y a ce renouvellement en Espagne, mais à l'heure où nous parlons ce matin, l'Espagne est surtout ingouvernable. C'est un blocage. Alors, c'est la fin du bipartisme, mais la droite est légèrement en tête, mais il va lui falloir trouver une coalition. Est-ce que le Parti Socialiste peut s'allier avec Podemos? Il y a quand même beaucoup de questions sans réponse ce matin.
Iglesias accuse souvent El País d'être le promoteur d'une grande coalition en Espagne et de dire qu'il faut en fait une alliance entre le PP et le PSOE, entre les conservateurs et les socialistes. Ça, c'est une issue qui est souhaitée par une partie, effectivement, probablement des milieux d'affaires. Là, on a un Parlement qui, objectivement, est ingouvernable. Maintenant, la situation de l'Espagne est à resituer dans un film qui a commencé en 78 et qui est en train d'évoluer à très grande vitesse et qui est dû grandement à la crise de 2008. Donc, les effets de cette crise se déploient dans l'ordre institutionnel, dans l'ordre politique, dans la société civile, dans la société politique. Et ce qui est très intéressant, c'est que maintenant, les deux partis qui formaient le bipartisme sont mis au pied du mur. L'un qui est le PP vis-à-vis de Ciudadanos, mais qui est très rejetant à son égard. L'autre qui est le PSOE, qui peut suivre l'exemple de Costa au Portugal, mais il n'est pas dit qu'il le fasse parce que les pressions sont contradictoires. Pression de l'électorat, mais aussi pression d'autres milieux, que sont les milieux d'affaires ou les milieux les plus proches de Bruxelles.
Pas d'extrême droite, en revanche, en Espagne. Le vote contestataire va à l'extrême gauche ou au parti issus de la société civile, mais pas à l'extrême droite.
La chance ou la malchance de l'Espagne, c'est d'avoir eu en fait, et puis surtout dans la succession, l'intégration de l'extrême droite franquiste, hormis quelques branquignoles un peu dingues néo-phalangistes, ils ont été intégrés en fait au Parti Populaire d'Aznar et de Manuel Fraga. L'extrême droite fait partie du PP, c'est ses cadres, ils se sont polissés, mais cette extrême droite-là est dans le Parti Populaire.
Vous pourriez les comparer au Front National. Ceux qui sont
vous avez des gens au Parti Populaire qui pensent comme un certain nombre de cadres de la droite extrême, si vous voulez, ils sont un peu entre la Manif pour tous et puis ce qu'était le MNR de Maigret pour certains. Et puis d'autres, c'est une droite beaucoup plus modérée. Et d'autres, ce sont d'authentiques démocrates chrétiens beaucoup plus centristes. Donc c'est une droite qui rassemble vraiment du centre-droit à une droite très très dure.
Bien, vous avez vu la une du Parisien ce matin, aujourd'hui en France, accrochés à leur fauteuil avec en photo François Hollande, Martine Aubry, Ségolène Royal, Nicolas Sarkozy, Alain Juppé. Et Jean-Claude Gaudin, moyenne d'âge 60 ans et on est gentil, en politique depuis 40 ans. Notre système politique est congelé, dit Michel Viviorca. Pourquoi ?
Il est congelé parce qu'on n'a pas eu le même type de mouvement. C'est vrai qu'en 2011 en Espagne, par exemple, vous n'avez pas dans les rues, les Français n'ont pas envahi les rues avec l'idée de changer la politique, d'avoir un système plus juste et que ce mouvement social, l'absence de mouvement social ne fait pas pression sur la société politique. C'est un fait. Et d'autre part, on a un système institutionnel qui garantit la pérennité de grands partis politiques, qui sélectionne au sein duquel une certaine endogamie, on sélectionne ses propres successeurs et parfois on sélectionne même son électorat pour être reconduit à la tête de son parti. C'était longtemps le principe des partis de droite, mais c'est un principe qu'on peut
retrouver. Mais ce qui est paradoxal, c'est que la défiance n'a jamais été aussi grande envers les partis politiques en France, mais à la fin, ils finissent, les Français, par voter pour eux. Je veux dire, toutes les tentatives de nouvelles formations de société civile, que ce soit Nouvelle Donne ou Nous Citoyens, ne marchent pas, n'impriment pas, ça ne fonctionne pas dans les urnes. À la fin, on finit par avoir un vote très, très traditionnel et très classique.
D'une part, ces partis qui sont assez nouveaux n'ont pas bénéficié d'un grand mouvement social, parce qu'ils n'ont pas eu des centaines de milliers de personnes. Le seul grand mouvement social qu'on ait eu, je suis désolé de le dire, mais c'était du côté conservateur. Et on voit très très bien l'impact que ça a sur les conseils régionaux aujourd'hui, d'avoir eu dans la rue 1 million de personnes qui ne partaient pas sur les principes les plus progressistes. Bon, ça s'en ressent sur la société politique de droite. Vous n'avez pas la même chose à gauche. Vous n'avez pas un grand mouvement social qui porte le renouveau à gauche. D'ailleurs, on voit...
C'est pour ça que le vote contestataire ne va pas au front de gauche, parce que le front de gauche, finalement, prône un conservatisme du modèle social et, contrairement à Podemos, ne veut pas inventer un nouveau modèle social, et c'est ça que vous dites ?
Vous voyez dans le front de gauche d'abord le rappel au monde ancien et d'autre part, vous avez un truc très frappant d'ailleurs hier soir, c'est la grande discrétion, très très grande discrétion de tous les leaders du front de gauche sur la victoire d'Iglesias. Comme si, au fond, ils ne voulaient pas rééditer peut-être l'expérience Tsipras de cette ruée à Athènes de manière un peu trop hâtive et d'autre part parce que tout ce que dit Iglesias, ce que dit Herreron, ce que dit Monedero au sein de Podemos, remet complètement en cause toutes les certitudes et tous les présupposés qui sont ceux de la gauche radicale française. Pas européenne, parce qu'elle commence à évoluer. Mais c'est très intéressant de voir les débats où il y a Podemos à la fête de l'humanité, par exemple, où ils sont rappelés à l'ordre par les plus orthodoxes du Parti communiste qui les somment de dire s'ils sont vraiment à gauche et ce qu'ils pensent vraiment.
Bon, résultat, on n'est pas prêt
bilan
à avoir...
des courses hier, 3% pour les uns, 21% pour les autres.
Voilà, on n'est pas prêt à avoir un Iglesias français.
Si, ça peut aller
vous
très
le voyez,
vite.
Vous le visualisez
Non, mais peut-être qu'on ne le connaît pas encore, mais il peut y avoir demain un mouvement social un peu progressiste, et puis il peut y avoir le triomphe de l'intelligence.
Gaël Brussier, dernier livre paru à demain Gramsci aux éditions du Cerf. Merci à vous.
Merci.
Et merci à vous, Léa Salamé.